Décryptage. Anne Corpet.
Le président kényan était hier à Kinshasa pour évoquer le déploiement de la force régionale est-africaine dans l'est de la République démocratique du Congo. 200 soldats sont déjà sur place, mais le gros des troupes n'est pas encore arrivé. Ces militaires ont pour mission de stabiliser une région en proie à la violence depuis une trentaine d'années. La rébellion du M23 a repris les armes l'année dernière et après 4 mois de calme relatif, les combats ont regagné en intensité depuis la fin octobre. Le M23 contrôle désormais une partie du nord Kivu et est à 20 km de Goma, la capitale provinciale. La pression diplomatique s'accentue sur le mouvement rebelle, mais aussi sur le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Ce soir, Décryptage se penche sur la situation au nord Kivu. Et avec nous pour évoquer la situation à l'est de la RDC, Thierry Vircoulon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors avant d'aborder les derniers développements, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le mouvement du 23 mars, autrement appelé le M23, qui est reparti à l'offensive donc au nord Kivu?
Alors comme vous le disiez, le M23 signifie le mouvement du 23 mars et c'était le 23 mars 2009 où il y a eu un accord entre le CNDP à l'époque et le gouvernement congolais pour que ce mouvement armé intègre l'armée congolaise. Et en fait, le M23 est l'enfant, si je puis dire, l'héritier du CNDP.
Le Congrès national pour la défense du peuple.
Voilà, exactement. Et qui, en fait, représente, on va dire, ou prétend représenter la communauté tutsi congolaise, mais qui, en fait, était une composante. La composante militaire de la rébellion de la FDL des années 90. Et donc, cette composante a muté au fil des décennies et sa dernière dénomination est le M23.
Alors, il y a tout juste 10 ans, le M23 entrait dans la ville de Goma. Ça avait été un vrai choc pour les Congolais. 10 ans plus tard, le M23 a repris les armes et se retrouve de nouveau aux portes de la capitale provinciale du Nord Kivu. Comment vous expliquez cette reprise du conflit entre le M23 et l'armée congolaise?
Oui, c'est en effet assez mystérieux parce que, comme vous le disiez, pendant 10 ans, le M23 avait disparu des radars. En fait, après son départ de Goma en mai ou mars 2013, il s'était replié sur l'Ouganda et le Rwanda. Et le mouvement avait vivoté, était devenu, comme un certain nombre de mouvements dans la région, un mouvement armé en sommeil. Et donc, il s'est réveillé l'année dernière. Dans des circonstances qui restent encore assez mystérieuses. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des négociations ou des tentatives de négociations à Kinshasa, où des éléments du M23 étaient venus l'année dernière et où apparemment il y avait des discussions avec les autorités congolaises qui n'ont pas abouti et qui ont conduit à la reprise des combats. Et ce qui a le M23 lui-même se présente surtout comme un mouvement qui a été exclu du dernier round de négociations entre les groupes armés des Kivu et le gouvernement congolais qui ont eu lieu au début de cette année à Nairobi sous l'égide du gouvernement kényan. Et le M23 n'a pas été invité ou autorisé à venir, etc. Alors que les autres groupes armés des Kivu l'ont été et qu'ils ont passé un accord avec le gouvernement congolais. Donc c'est un peu, sa généalogie reste un peu, son réveil, on va dire, reste assez mystérieux, mais on a quand même quelques éléments.
Et qu'est-ce qu'ils veulent ?
Alors, officiellement, ils mettent toujours en avant la défense de la communauté tutsi congolaise, mais leur principale revendication, c'est l'intégration dans l'armée, puisque c'était l'objectif de l'accord du 23 mars 2009, et qu'ils estiment que cet accord a été trahi, et c'est pour ça qu'ils s'étaient mutinés en 2012. L'accord avait été en fait lorsqu'on leur avait demandé de se délocaliser dans d'autres provinces, c'est là qu'ils s'étaient mutinés. Et maintenant, ils réclament une réintégration dans l'armée congolaise.
Mais pardon, mais c'est pas un peu paradoxal de réclamer l'intégration dans une armée qu'on combat, justement ?
C'est-à-dire que les groupes armés dans l'est du Congo ont passé leur temps à faire ça depuis 20 ans. Il y a eu 4 programmes de démobilisation et de réinsertion des groupes armés. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un deal entre le gouvernement et ces groupes armés. Et un des éléments de ce deal, c'est d'intégrer l'armée congolaise. Donc beaucoup de groupes armés l'ont fait. Beaucoup aussi sont sortis de l'armée, ont fait des allers-retours entre l'armée et la rébellion. Et ça a été notamment le cas des gens du M23.
Alors, face à l'aggravation de la situation, les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé en juin dernier de créer une force armée. Je le disais, il y a déjà 200 soldats qui sont arrivés sur place. Et hier, William Ruto, le président kényan, était à Kinshasa. Il s'est exprimé sur le mandat de cette force régionale que son pays va piloter. On l'écoute au micro de notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi.
Le mandat de la force régionale d'Afrique de l'Est a été convenu par les chefs d'État comme un mandat pour assurer la paix dans l'Est de la RDC et imposer la paix à ceux qui sont déterminés à créer l'instabilité et l'insécurité.
Imposer la paix, dit le président kényan, ça veut dire que les soldats kényans vont affronter directement les rebelles du M23 ?
Oui, c'est le message, puisqu'il parle de peace enforcement, donc d'imposition de la paix, ce que se refusent à faire les casques bleus de la MONUSCO.
Oui, et donc qui ont échoué depuis des années à contenir.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et qui, là, le secrétaire général lui-même de l'ONU a avoué son impuissance face au M23. Donc, il faut une force d'imposition de la paix. Et c'est en effet l'East African Community qui a décidé, comme vous le disiez, en juin, de l'envoyer. Le problème, c'est que, comme on le voit, puisque les soldats arrivent seulement maintenant, il y a un délai de réalisation de cette force qui est très important. Et pour le moment, il y a des soldats kényans qui sont arrivés essentiellement. On attend encore d'autres contingents, mais clairement, il y a un problème de financement de cette force. Et c'est pour ça que depuis juin, rien ne s'est vraiment passé.
Oui, d'ailleurs, à Nairobi, l'opération fait un peu grincer des dents parce que ça coûte plus de 35 millions de dollars pour les 6 premiers mois de la mission. Alors, pourquoi le Kenya s'implique dans ce conflit ?
En fait, il y a eu un rapprochement entre Kinshasa et Nairobi dès l'avènement du président Tshisekedi, parce que le président kényan, à l'époque, le président Kenyatta était le seul président, si mes souvenirs sont bons, à être venu à l'investiture du président Tshisekedi. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux capitales, un vrai rapprochement diplomatico-économique. Et du coup, le gouvernement kényan s'était proposé pour être le médiateur de ces rounds de négociations entre les groupes armés des Kivus et le gouvernement congolais au début de cette année. Donc, ils sont très impliqués dorénavant dans l'affaire kivusienne.
Avec des objectifs économiques ?
Il y a eu un certain nombre d'accords économiques qui ont été signés depuis 2019, en effet. Il y a eu notamment une banque kényane qui a pris une part importante dans une banque congolaise. Et en effet, on sent que le Kenya veut développer ses relations avec la RDC dans le cadre d'une stratégie de diplomatie économique.
Alors, ce mardi, l'Ouganda a annoncé qu'il allait aussi envoyer un millier de soldats dans le cadre de cette force régionale. Mais Kampala a été accusé de fermer les yeux sur les activités du M23, voire de le soutenir. Il faut rappeler qu'en juin dernier, le M23 a pris le contrôle de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda. Alors, comment expliquer cette position de l'Ouganda ? Est-ce qu'ils sont avec le M23 ou est-ce qu'ils vont combattre en même temps la rébellion ? Ça paraît un peu paradoxal.
L'Ouganda a toujours eu, en effet, par rapport au M23, une position très ambiguë. Déjà, en 2012, ça avait été le même scénario. Ils avaient dit que c'était aussi à Bunagana que le M23 était entré en RDC et les autorités ougandaises avaient dit qu'elles n'en savaient rien, etc. C'est un peu comme si la ville de Charleville-Mézières était attaquée par un groupe armé qui venait de la frontière belge et que les autorités belges disaient qu'ils ne sont pas au courant. C'est à peu près ça.
Et qu'après, ils disent envoyer des soldats pour lutter contre ce groupe armé.
Voilà, ce qui est paradoxal, mais ce qui a aussi pour but de sauver les apparences en disant, voyez, on est pour la paix dans la région.
Alors, un autre acteur incontournable dans ce conflit, c'est le Rwanda. La RDC accuse Kigali d'être responsable des avancées de la rébellion. Et à la fin octobre, sur notre antenne, le porte-parole de l'armée congolaise mettait une nouvelle fois en cause le Rwanda. On écoute Sylvain Ekenge, interrogé par Christina Okello.
Ce sont les armées rwandaises, les canons, les mortiers de l'armée rwandaise, ainsi que les militaires rwandais qui sont en face de l'armée congolaise.
Alors, est-ce que la participation du Rwanda à ce conflit est établie ? Est-ce qu'il y a des preuves concrètes de l'implication de Kigali ?
Bah, d'une part, comme on le disait tout à l'heure, la géographie est très parlante, puisque la zone de Bunagana, c'est pas seulement proche de la frontière ougandaise, c'est aussi proche de la frontière rwandaise. Et donc, ces deux pays ne peuvent pas ne pas savoir ce qui se passe dans cette zone. Et notamment pour l'approvisionnement logistique du M23, ils sont forcément au courant, puisque cet approvisionnement passe forcément dans leur pays. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a en effet, je pense, un certain nombre de renseignements qui ont été collectés par les services congolais et d'autres sur, en effet, la provenance de l'armement du M23. Et voilà, et ça s'inscrit aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que le soutien de Kigali à ces différentes manifestations, c'est-à-dire avant le M23, le CNDP, etc., ces différents groupes armés tutsi congolais, est un phénomène historique.
Mais c'est un soutien direct, comme le disent les Congolais, avec participation de soldats rwandais, ou c'est plutôt un soutien logistique indirect ? Sous quelle forme, autrement dit, peut intervenir le Rwanda dans ce conflit ?
Il y a eu des incursions de l'armée rwandaise au Nord Kivu, ça c'est assez bien documenté. Après, je ne saurais pas vous dire si c'est un soutien logistique ou si c'est une participation directe au combat, mais il est clair qu'il y a un soutien.
En tout cas, Kigali a toujours démenti intervenir directement en RDC. Écoutez ce que disait le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais fin octobre. Après l'expulsion de l'ambassadeur de Rwanda par la RDC, Alain Mukuralinda au micro de Pierre-Yves Georges.
C'est regrettable de voir que chaque fois, tous les problèmes qui se posent au Congo, le Rwanda soit pris comme bouc émissaire. Il n'y a pas d'arrivée massive de l'armée rwandaise, comme l'affirme le gouvernement congolais, pour supporter le M23. Et ces accusations ne sont pas nouvelles.
Au fond, pourquoi Kigali aurait eu intérêt à réveiller le M23 ?
Alors, d'une part, pour maintenir son influence sur le Nord Kivu probablement pour affaiblir le gouvernement congolais, qui après la longue période d'une présidence Kabila, avec l'avènement du président Tshisekedi, avait l'air de reprendre en quelque sorte un élan. Il est probable que la réactivation du M23 était conçue pour casser cet élan. C'est d'autant plus paradoxal qu'il y avait eu un rapprochement aussi entre Kinshasa et Kigali au début de la présidence Tshisekedi, avec des accords économiques qui avaient été signés et même la venue de Paul Kagame à Goma. Et donc l'idée aussi de faire une coopération sécuritaire qui ne s'était pas vraiment matérialisée, mais qui avait été évoquée à ce moment-là. Et donc on voit qu'il y a eu un rapprochement manqué et qu'après ce rapprochement manqué, le M23 a été réactivé, donc il y a peut-être en effet un lien, et peut-être que Kigali a été déçu de l'échec de ce rapprochement et a décidé de passer à d'autres méthodes.
En tout cas, fin octobre, les États-Unis ont demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23. La France et la Grande-Bretagne sont, semble-t-il, plus prudentes. C'est pour préserver leurs relations avec Kigali. On sait que la Grande-Bretagne a un accord avec le Rwanda pour...
Oui, tout à fait. Il y a Paul Kagame a noué maintenant de solides amitiés chez les Occidentaux. Il était dernièrement invité au G20, si je ne me trompe. Et en effet, il a avec Londres passé un accord sur la relocalisation des migrants, des demandeurs d'asile dans son pays, ce qui était extrêmement étrange et malvenu. Avec la France, il a déployé des troupes dans le Cabo Delgado contre les djihadistes, et donc c'est tout au bénéfice des investissements de Total dans cette région. Donc il a bâti des alliances, il a une diplomatie militaire maintenant qui se développe sur le continent où il rend des services en Centrafrique, au Cabo Delgado, comme je le disais, et peut-être demain en Afrique de l'Ouest. Donc il a une stature sur la scène internationale qui le préserve en effet de trop fortes pressions dans la situation présente.
En tout cas, ces accusations qui pèsent contre le Rwanda entraînent des manifestations, des sentiments anti-rwandais en RDC. Est-ce qu'il y a un risque d'une forme de haine entre les Tutsis qui se propagerait à travers l'est de la RDC ?
C'est un sentiment qui existe depuis longtemps. Évidemment, à chaque nouvelle crise avec le CNDP ou M23, ce sentiment est réactivé et exacerbé. Mais je pense que plus globalement, il y a des questions qui se posent, notamment sur l'inefficacité récurrente de l'armée congolaise. Il ne faut pas oublier quand même que le Nord Kivu est placé en état d'urgence, c'est-à-dire que le pouvoir au Nord Kivu a été confié aux militaires depuis 2021. Et on voit que là, ils n'ont cessé de reculer. Il y a une question aussi très importante qui se pose en termes de gouvernance des ressources naturelles et la question d'une kleptocratie extractive qui existe dans la région des Grands Lacs,
parce que c'est
dans
la région riche en ressources.
Oui, tout à fait, avec une économie rentière de prédation qui est basée sur les ressources du sous-sol. Et donc, c'est ça qui est le fond du problème. Et c'est ça qui n'est toujours pas résolu depuis plusieurs décennies. Donc, on voit en effet qu'on assiste à une sorte de répétition historique, à une sorte d'éternel retour du même, avec une nouvelle crise du M23 après celle de 2012. Et évidemment, avec, je pense, là aussi, un calendrier qui n'est pas innocent, puisque, comme vous le disiez, le M23 est maintenant aux portes de Goma, là où il était il y a 10 ans. Donc c'est une sorte de célébration d'un anniversaire sinistre. Et je pense que ça fait partie des messages qui sont envoyés.
Alors, les évêques catholiques de la République démocratique du Congo ont tiré la sonnette d'alarme face à la flambée des violences. Ils appellent à une marche le dimanche 4 décembre prochain à travers le pays. Et le secrétaire général de la conférence des évêques du pays a parlé de balkanisation du pays. Est-ce que ce terme vous paraît adéquat ?
Non, mais c'est un cliché du discours politique congolais depuis le XXe siècle, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Mais c'est vraiment là un cliché, c'est malheureux que les évêques parlent comme ça, c'est un cliché de la rhétorique politique congolaise qui crie toujours à la balkanisation. Et ça c'est une vieille question historique qui n'est pas d'actualité, mais qui est toujours brandie parce que c'est, comme je le disais, un cliché et que ça fait un écho toujours très fort dans la population congolaise.
Très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que vous pensez que finalement le M23 a aussi profité du fait que depuis de nombreux mois, la communauté internationale a les yeux rivés sur l'Ukraine ?
Oui, il est clair que cette nouvelle rébellion, quand on voit l'attitude du Conseil de sécurité, elle n'intéresse pas. Il y a d'autres éléments sur l'agenda international du Conseil de sécurité, et donc très clairement, le message qui a été envoyé par les Occidentaux a été de dire « Bon, écoutez, c'est un problème africain, donc il doit y avoir une solution africaine », d'où, en effet, l'implication de l'East African Community et du Kenya.
Merci Thierry Vircoulon. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut français des relations internationales. Merci à Éléonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission et à Maxime Das qui l'a réalisée.
Priorité santé. Caroline.